Ce soir, c'est Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Moscovici. En débat avec Alain Duhamel. Bonsoir, Alain.
Bonsoir.
C'est vrai qu'on s'interroge justement sur cette réforme des retraites qui est au cœur de la négociation politique du chef du gouvernement, François Bayrou. Faut-il, oui ou non, la suspendre ? Pour bon nombre d'économistes et de responsables de droite, cela ferait courir un risque financier à la France. Écoutez le député Les Républicains, Philippe Juvin.
Geler la réforme actuelle des retraites pour rien, c'est 3,5 milliards cette année et 10 milliards en 2027. Donc oui. Ça, on ne peut pas se le payer. Le seul point qui doit tous nous animer, c'est de dire qu'il faut qu'on ait un système à l'équilibre qui n'est pas à l'équilibre aujourd'hui. Alors, je ne voterai pas un budget qui ne baisse pas la dépense publique d'une manière très forte et rigoureuse. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas ça, nous allons vers des déconvenues majeures. Et je vous le dis, hein, un jour, le Fonds monétaire international sera à Paris et dira on ne paye plus les fonctionnaires. C'est ça qui va se passer.
Ah bon, les fonctionnaires doivent s'inquiéter, Alain Duhamel ?
Bon, écoutez, on n'en est pas encore à l'apocalypse, mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes, la France est dans une situation qui est objectivement calamiteuse. On a les finances publiques dans le plus mauvais état de tous les pays européens. On a le déficit budgétaire le plus important. Il entraîne une crise monétaire et financière dont on sent, par exemple, avec l'augmentation des taux d'intérêt, que ça complique encore les choses. Ça débouche, ça a commencé à déboucher sur des plans sociaux. Ça aura évidemment des effets économiques très néfastes, aussi bien pour l'attractivité vis-à-vis de l'étranger que pour les décisions d'investissement et que pour les décisions de consommateurs. Les Français ont toujours beaucoup épargné, mais ils épargnent encore plus que d'habitude. Donc, ils consomment moins. Donc, c'est une situation extraordinairement difficile. Et devant ça, on a quand même un monde politique qui reste extraordinairement contradictoire. Il y a ceux qui ne veulent même pas entendre parler des discussions à France Insoumise. Il y a ceux qui ne sont pas consultés parce que c'est eux qui ont déclenché la dernière censure au Rassemblement National. Il y a ceux qui, à gauche, veulent suspendre les retraites et obtenir un certain nombre d'avancées sociales, c'est-à-dire creuser les déficits davantage. Et il y a ceux qui, à droite, disent qu'il faut diminuer les dépenses, mais ne disent pas comment. Bon, tout ça est au milieu de ça. François Bayrou, dans son discours de demain, son problème, ça va être d'éviter l'écartèlement entre ce que ne veulent pas les uns et ce que ne veulent pas les autres.
Et on va quand même vers la suspension de la réforme de retraite. La France en a-t-elle les moyens ?
Écoutez, franchement, je ne peux pas anticiper sur ce qui se passera demain. Il y a encore beaucoup d'incertitudes à l'heure où nous parlons. Mais je pense que Alain Duhamel dit les choses comme il le faut. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une situation qui est assez paradoxale. Nous avons, d'une part, une instabilité politique qui est, je pense, le nœud de la crise française aujourd'hui. La base de la crise française, elle est politique. Parce que l'instabilité politique engendre l'incertitude économique, elle induit des comportements qu'on connaît, c'est-à-dire les investisseurs, au lieu d'investir, attendent, et les consommateurs épargnent. Alors qu'en réalité, si on veut relancer la croissance française, il faut beaucoup d'investissements et beaucoup de consommation. Et ça débouche aussi sur une incertitude et une instabilité financière, avec des finances publiques qui, je le confirme, sont les plus mauvaises d'Europe. Nous avons aujourd'hui un déficit à la fin 2024 qui est supérieur à 6%, c'est deux fois plus que ce que disent les traités, mais c'est aussi deux fois plus que la moyenne européenne, avec une année 2024 qui a été cataclysmique, une année noire pour nos finances publiques. Et donc, on ne peut pas refaire ça en 2025. Alors, il y a deux façons de voir le problème. C'est pour ça que je ne veux pas répondre sur cette question de la suspension des retraites. Il y a la façon politique. Il est souhaitable qu'il y ait un budget en France. Il est souhaitable qu'on mette fin à l'instabilité politique. On ne peut pas avoir des gouvernements qui durent trois mois, et je ne souhaite pas que le nouveau gouvernement soit censuré. Très clairement, ce serait une mauvaise chose. Mais justement, la question, elle est là. C'est ça que je voulais dire.
Quel prix à payer ?
On est devant une situation où on doit chercher le compromis, et il est tout à fait logique que le gouvernement le cherche, c'est son métier, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des finances publiques. Et là, je veux passer un message très clair, c'est que nous devons réduire fortement nos déficits pour maîtriser notre dette. Et je veux donner des chiffres. Nous sommes à 6,1 pour moi. Le déficit budgétaire doit être plus proche de 5% que de 5,5%. Il doit être très clairement en dessous de 5,5% en 2025. Ça, après, il faut voir comment on y arrive. Et donc, pour moi, si vous voulez, pour répondre sur cette question de suspension des retraites, après, la réforme des retraites, elle est révisable. Elle n'est pas parfaite, on le sait depuis le début. Il y avait la question de l'âge pivot, il y a la question de la pénibilité, il y a un certain nombre de carrières longues. On peut débattre de tout ça, mais il faut que financièrement, nos retraites soient soutenables. Et donc, au-delà du terme, il y a la question de savoir quel processus on ouvre pour que nos retraites soient financées. Ouais. Nous avons les retraites qui sont les plus avantageuses d'Europe aussi. Et il faut réformer nos retraites.
Les socialistes disent qu'on peut suspendre, qu'il y a le fonds qui avait été mis en place par Lionel Jospin il y a des années, qui était justement, parce que Lionel Jospin savait qu'avec...
le fonds de réserve des retraites, oui.
Le vieillissement de la population, on aurait un problème de financement, donc il y a un fonds de réserve des retraites, et les socialistes disent qu'on n'a qu'à piocher dedans le temps de se mettre d'accord sur une nouvelle réforme.
Oui, c'est-à-dire, on dépense un des rares points... qu'on ait mis de côté, il y en a pas beaucoup hein, de ce
ça
genre.
Ça servait pas ça d'ailleurs.
Et ça n'était évidemment oui, on le détourne. Oui, dans la réalité des choses, on le détourne. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est on voit bien que la situation budgétaire, économique, financière, sociale, économique est vraiment dangereuse. Et dans un cas comme ça, on continue à proposer des dépenses supplémentaires. Intellectuellement, franchement...
Mais c'est quoi c'est par ignorance, par démagogie?
Non, c'est pas par ignorance, parce que, en tout cas, c'est pas par ignorance générale. Il y a quand même un certain nombre de dirigeants politiques qui connaissent quelque chose. Mais c'est par un espèce de trumpisme français. D'abord, on croirait qu'on peut faire autrement que les autres. Ben non. Oui. On a une démographie des naissances qui baisse, la durée de vie augmente, les ressources doivent donc être plus importantes, payées par un nombre de gens de moins en moins nombreux. C'est extraordinairement difficile à gérer. C'est pas le moment de dire on va encore compliquer les choses en revenant d'un côté ou en proposant de l'autre. Franchement, c'est une façon. On a l'impression qu'il y a deux univers. Il y a l'univers de la réalité avec la crise, et puis il y a l'univers du désir. Je suis d'accord. J'adorerais qu'on puisse, par exemple, commencer par augmenter, ce qui serait tout à fait nécessaire d'ailleurs, les petites retraites de beaucoup de femmes qui ont cotisé moins longtemps à cause des naissances, etc., et qui sont les perdantes hein, de cette réforme des retraites. Donc, je serais tout à fait pour ça. Mais... faire, comme je l'ai lu et entendu pendant une semaine, la nomenclature de toute une série d'avancées sociales, alors qu'on est fauché.
La réforme des retraites, c'est une dimension, elle est essentielle parce que c'est un marqueur. Et c'est aussi ce que regardent beaucoup les marchés financiers, parce que réduire notre endettement, c'est pas pour le plaisir.
Comment ils vont réagir les marchés financiers si on suspend ?
C'est une question qui est une question de crédibilité. Nous sommes en déficit excessif, il y a une procédure dans l'Union européenne, nous devons respecter les traités qui nous sont en réalité extrêmement favorable. Deuxième chose, c'est une question de soutenabilité, c'est-à-dire que si on n'a pas des déficits qui se réduisent et une dette qui se maîtrise, alors à ce moment-là, notre dette coûte de plus en plus cher et les primes de risque sont en train d'augmenter. Pensons quand même qu'aujourd'hui, nos spreads sont à 85 points d'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne, c'est vraiment un seuil de crédibilité. Nous avons un spread qui augmente avec l'Allemagne et qui se réduit avec l'Italie. D'une certaine façon, on s'italianise. Et c'est pas une bonne chose, parce que l'Italie fait des efforts, nous devons les faire aussi. Puis c'est troisièmement une question de souveraineté. C'est-à-dire que quand on est très endetté, on ne peut pas investir dans l'avenir. Et donc, demain, il y a une déclaration de politique générale. Oui. Le Premier ministre, j'imagine, et je l'espère d'ailleurs, ne va pas parler que du budget 2025. On ne parle que de ça. Il ne va pas parler de la réforme des retraites. Il doit donner une vision. Et ce que je peux ajouter en termes de finances publiques, c'est qu'il y a l'année 25 qui est difficile. Mais il y a 26, 27, 28, 29. C'est-à-dire que pendant 5 ans, au moins, il faut faire des efforts.
Avec une croissance qui s'affaiblit.
Mais attendez. De ce point de vue-là, on sait ce qui va se passer en 25. Il y aura une partie de fiscalité, une partie d'économie. Il y avait, dans le PLF qui avait été déposé par Michel Barnier, beaucoup de fiscalité en réalité et assez peu d'économie. Là, demain, il y aura un équilibre. Bon, attendons de voir ce que c'est. Oui. Mais pour la suite, et ça, je veux porter ce message très fortement, et je vous rejoins, il faut absolument basculer du côté des économies en dépenses.
On ne pourra pas augmenter la fiscalité chaque année.
Non, c'est pas possible. La première année, on peut le faire. La deuxième année, bonjour les dégâts. Vous savez, ça peut penser à un slogan de la sécurité routière il y a quelques années. Et donc, il faut basculer sur le mode économie. Et de ce point de vue-là, je veux affirmer quelque chose ici. Je le prétends pas, je l'affirme. Nous pouvons faire des économies intelligentes en France sans dégrader notre modèle social. La Cour des comptes, la semaine dernière, a présenté un rapport qui a eu une attention originale, mais pas aussi puissante que je l'aurais souhaité. C'est-à-dire que nous avons montré que le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire les dépenses exceptionnelles de crise, nous pouvions les réduire de quelques 4 à 5 milliards d'euros sans toucher à quoi que ce soit qui concerne les Français.
Donnez-nous un exemple.
Je donne un seul exemple, c'est l'apprentissage. On a eu une politique d'apprentissage qui était très bonne et qui était nécessaire nécessaire avec un chômage de jeunes élevé. Simplement, on a des apprentis qui sont pour beaucoup des étudiants du supérieur. Et l'apprentissage n'est pas fait pour eux.
Non.
Et donc, nous proposons simplement de réduire la cible de l'apprentissage à tout ce qui est dans l'enseignement scolaire, jusqu'au niveau bac. Si on fait ça, on économise assez massivement. On peut aussi le cibler sur des entreprises qui sont plutôt les PME, les plus grosses entreprises n'en ont pas forcément besoin.
Il y a aussi eu un détournement de l'apprentissage, parce qu'on a utilisé l'apprentissage non seulement pour ceux qui se préparent à des métiers manuels ou à des métiers techniques sophistiqués, mais tout simplement à des étudiants.
Vous savez, mais c'est ce que c'est exactement ça dont il s'agit. À la Cour des comptes, c'est pas vraiment manuel.
Ensuite, je répondrai si ces messieurs sont d'accord.
À la Cour des comptes, nous avons des apprentis. Ils sont souvent des élèves de grandes écoles. Voilà. Moi, je m'en réjouis. Mais c'est ce qu'on appelle effectivement un effet d'aubaine pour eux, pour nous. Ils n'ont pas besoin de ça pour trouver un emploi, honnêtement. Alors, et donc, je donnais cet exemple. Et si on étend cette démarche de revue de dépenses, comme on dit, on peut faire des économies dans l'État, dans la sécurité sociale et dans les collectivités locales, sans affaiblir le service public que les Français le souhaitent.
Simplement, en amont de tout ça, ça signifie qu'il y a un minimum de stabilité politique
et de cohérence.
Et un minimum d'autorité politique de la part du gouvernement. Or, sur ces deux points, rien n'est garanti du tout. On est dans une crise politique qui est à l'origine de beaucoup de dérèglements, mais qui surtout les accentue faute d'être capable de proposer des solutions. Et on est dans cette crise politique. S'il y a censure, j'y crois pas trop à propos du discours de politique générale, mais ça ne peut pas être écarté a priori à propos du budget, c'est-à-dire soit à la fin de janvier, si on se met d'accord dans la commission mixte paritaire entre Sénat et Assemblée, soit à la fin de février, si on ne se met pas d'accord. Bon, mais à partir de ce moment-là, à partir du budget, l'hypothèse d'une censure redevient possible. Alors d'abord, en tant que telle, ça a des effets économiques. L'hypothèse, je dis bien, même pas la réalisation. L'hypothèse a des effets économiques détestables, parce que tout le monde regarde de partout ce qui se passe en France et se dit ils sont pas capables d'avoir un gouvernement stable et de prendre des décisions, d'une part. Et puis, d'autre part, on est à la veille de ce qui, s'il y avait une autre censure, serait une crise non plus politique, mais une crise de régime. C'est-à-dire sans solution naturelle à une situation extraordinairement complexe. Et dans ce cas-là, le désordre économique, financier et budgétaire peut prendre des proportions hors de contrôle. Merci de m'avoir laissé parler.
Oui. C'est pour ça que j'expliquais. Tout de même, c'est pour ça que nous parlons équitablement.
Non, c'était pas vous.
C'est pour ça que nous, on s'est toujours engueulé de toute façon.
Très bien. C'est pour ça que j'expliquais que l'instabilité politique est la base de tout. Et donc, il est souhaitable, en effet, qu'on trouve les moyens d'un compromis, des voies et moyens d'un compromis, et qu'il y ait un accord, comme on dit, de non-censure. Mais une fois qu'on a dit ça, la question, c'est le prix. Ouais. Et il ne faut le faire sans dégrader notre situation économique avec de la crédibilité financière. C'est pour ça que quand j'évoquais la déclaration de politique générale, c'est pas seulement ce qu'on fait dans quelques semaines, c'est comment on se projette aussi. Et le discours du Premier ministre a réussi s'il est capable de donner le sentiment que les pouvoirs publics savent où ils vont, qu'il y a une volonté, une cohérence, un chemin. Et j'y reviens dans la matière qui est la mienne, les finances publiques. La politique, ça m'intéresse beaucoup, mais je ne peux pas trop en parler. Dans la matière qui est la mienne, ça passe par comment on bascule sur des économies en dépenses, comment on arrive à responsabiliser les acteurs. Et les marchés, dont vous parliez tout à l'heure, bon, je pense qu'évidemment, ils seront très attentifs à la question des retraites. C'est un marqueur, c'est un symbole. Ils seront peut-être moins attentifs à la question de savoir si on suspend ou pas, qu'à la question de savoir quel est le point d'arrivée visé. Autrement dit, est-ce qu'on a une réforme, si c'est pas celle-là exactement, qui permette quand même de financer nos retraites? Parce que nous avons des retraites par répartition, et nous avons des retraités qui sont plutôt généreusement servi par rapport à une jeunesse qui est en attente et par rapport à des actifs qui sont en difficulté.
Le départ de notre discussion, c'était les propos de Philippe Juvin qui disait, mais attendez, si on continue comme ça, ça va être le FMI, ça va être...
Ça, c'est du fantasme, on fait peur. Bah, on se fait peur. Je veux pas commenter ce que dit Philippe Juvin. Je vous dis mon sentiment là-dessus. Je ne crains pas pour la France une crise financière au sens grec. Je ne crains pas l'arrivée du FMI. Je ne crains pas des sanctions immédiates de l'Union européenne. En revanche, soyons clairs, le risque existe que nous nous enfoncions doucement. C'est pour ça que j'évoquais le terme d'italianisation. C'est-à-dire que nos spreads continuent d'augmenter, qu'on aille vers 100 points de base en plus que l'Allemagne, que ça coûte de plus en plus cher, qu'on soit dans une espèce de boule de neige, qu'on ait non plus 55% de charge de la dette annuelle à rembourser, mais 70, mais 100. Et une fois alors, qu'on en est là, on ne peut plus rien faire.
Soit de moins en moins.
Tout à fait.
Donc on peut rien faire d'autre. On peut plus investir. Mais
je pense que la dette française est une bonne dette qui trouvera toujours preneur. Le problème, c'est à quel prix.
Oui, mais si elle est ça, plus, François Bayrou.
Si elle est de plus en plus chère, on ne peut rien faire.
C'est l'argent moins pour autre chose.
Un État endetté est un État d'abord paralysé et puis un État ensuite totalement impuissant.
Alors, est-ce que François Bayrou, il peut faire des miracles, Alain Duhamel?
Il est catholique, donc il croit aux miracles par principe.
Il adore Henri IV et ça s'est mal terminé.
Il aura peut-être son panache demain.
Oui, enfin,
son panache blanc.
Si, il a intérêt non pas à faire le malin demain, mais à faire quelque chose qui soit à la fois consistant et surtout clair. La pire des choses demain, ce serait le flou. Il faut au contraire donner des directions, expliquer ce que sont les principes d'action et mettre chacun devant ses responsabilités. Parce que le problème, c'est que François Bayrou, lui, depuis toujours, il a été un adepte et un symbole, plus ou moins modeste selon les périodes, de la culture du compromis. Puis c'est la nature du centrisme. Bon, il faut bien dire qu'en France, ça n'est pas la spécialité nationale, la culture du compromis, bien au contraire. Et que là, il se trouve là où il avait envie d'être depuis des décennies, c'est-à-dire à l'hôtel de Matignon, en attendant mieux, bien sûr. Mais il se trouve là, à un moment où il y a ce qu'on appelle la tripartition, ce qui veut dire l'impossibilité organique d'obtenir une majorité. C'est la situation la plus difficile possible. C'est la division la plus forte qu'on ait connue.
Est-ce qu'il peut faire des
miracles? C'est le système le plus compliqué. Si il fait un miracle, moi je ne demande que ça. S'il fait un miracle, il faudra reconnaître que la réponse est peut-être venue de là où au départ on ne l'attendait pas.
Pour avoir une nuance, parce que le compromis pour avancer sereinement ou le compromis pour ne plus bouger, c'est-à-dire être dans l'immobilisme. Alors, dans quel cas, c'est pas une solution pour le
risque. Si on ne bouge pas, on s'enfonce.
Je ne suis pas catholique pour ma part, donc je crois moins au miracle. Mais je crois plus peut-être à l'action. Je pense que ce qui est très important dans le discours de politique générale, c'est qu'on sente qu'il y a justement cette volonté, ce sens, cette cohérence et ce chemin. Autrement dit, qu'un compromis soit trouvé, mais sans abandonner l'essentiel. Et je le répète encore une fois, il faut que demain, et par la suite, on sente que la stabilité est possible, qu'on a élargi ce que Michel Barnier appelait le socle commun, mais qu'on le fasse sans renoncer à l'essentiel. Et pour moi, ce chemin de finances publiques, il est essentiel. Et je le redis ici, nous devons être à moins de 3% de déficit en 2029. Nous devons être clairement en dessous de 5,5% dès 2025. Et quelles que soient les mesures qu'on prend, on ne doit pas sacrifier la volonté d'économiser les dépenses publiques dans l'avenir.
Et j'ajoute, que demain, ça ne soit pas un exercice de virtuosité démagogique.
D'accord. Et finalement, la solution...
Mais de la virtuosité pédagogique, peut-être.
Du côté de François Bayrou, oui. Mais du côté des groupes parlementaires, la tentation de la démagogie demain, je pense qu'elle va ruisseler.
Mais il n'y a pas que demain. C'est la suite qui s'ouvre derrière la solution, avec les contradictions.
La solution, c'est peut-être de nommer un président de la Cour des comptes à Matignon. Et pourquoi pas Pierre Moscovici, puisqu'on a un problème de finances publiques.
Un premier président. D'abord, ça lui a déjà été proposé pour commencer.
Ah bon? Matignon, non.
Matignon, non.
Mais vous savez, le premier président.
Non, mais sérieusement, puisque finalement, vous avez les rapports, vous voyez bien ce qu'il faut faire pour les finances publiques.
Il y a un premier ministre, je lui souhaite vraiment de trouver demain le chemin, et je vais l'aider. Voilà. Alors, si je finissais par une boutade, pourquoi vouliez-vous que je sois premier ministre alors que je suis déjà premier président?
D'accord.
Excellent.
Alain, mot de la fin.
Et il faut qu'il y ait demain un Premier ministre digne d'un Premier président de la Cour des comptes.
Merci Alain Duhamel.
J'aurais pas osé le dire.
Merci Pierre Moscovici.